Ezrat Hashem, aujourd'hui, concernant le livre de Shemot, nous essayons de toucher le sens des noms dans ce que nous pouvons de différentes manières. Nous avons déjà expliqué que les noms étaient en fait une capacité à définir, car le but, c'est d'essayer de définir le maximum de choses dans notre monde, qui est un monde qui a été créé pour définir en fait le plus possible des valeurs de l'infini. Donc, le passage de l'infini au fini passe obligatoirement par une contraction qui va en fait permettre à la partie basse, au récepteur, de recevoir les valeurs qui au départ étaient de l'ordre de l'infini. Cette contraction, c'est les Shemot, c'est-à-dire les noms. Les noms donc jouent le rôle de filtre. À partir du moment où je peux définir quelque chose, eh bien c'est comme si je l'avais habillé, et au fur et à mesure des années qui passent, ce vêtement devient de plus en plus fidèle aux valeurs que je veux dévoiler. Exactement. C'est-à-dire à partir du moment où je veux commencer à toucher dans ce monde de la matière, dans le monde de la création, des valeurs de l'infini, je passe donc du livre de Bereshit au livre de Shemot. Bereshit étant donné que c'est un livre très profond, donc très, on va dire, infini, pour utiliser nos termes, eh bien, pour passer de l'infini au fini, je dois passer de Bereshit à Shemot. Dès que je donne des noms, je commence à appréhender et à me donner une direction que, bien entendu, l'infini m'a donnée, que moi j'arrive maintenant à décoder. Alors, le livre commence par Ve'el le Shemot bnei Israël habaim mitzraïma. Et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent vers l'Égypte. On a expliqué que c'était au présent. Habaim, il n'y a pas marqué Shebaou, qui sont venus. Sous-entendu que cette venue en Égypte est permanente. Pourquoi faire? On va essayer de comprendre. Sefer Shemot, donc le livre de Shemot, le livre des noms, au sec de Shemot. Eh bien, il traite des noms. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Nous avons donc des noms qui apparaissent. Et on va essayer de comprendre quel est le sens de cette réapparition, parce que tous ces personnages, nous les connaissons déjà. Et là, chez Kvar Betrilat HaSefer, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que tout en parlant de ces noms, ce n'est pas seulement des noms de personnages, ce sont des noms de qualité. Reuven, c'est une qualité de voir, de vision. Yirot. Shimon, c'est une qualité d'ouïe. Lishma. Donc ça veut dire que la Torah nous dit que par ces noms-là, elle nous fait passer un message subliminal, profond, que ce sont nos sens qui descendent en Égypte. J'essaye de traduire, si les sens de l'homme descendent en Égypte, les sens, ah et l'apostrophe, tous nos sens, nos cinq sens, ça veut dire que nous sommes incapacités, à un moment donné, dans l'incapacité, ni de voir, ni d'entendre, ni de sentir, ni de toucher, ni de goûter. Puisque les sens descendent dans un domaine qui s'appelle Égypte. Comme si les sens étaient, en fait, dans une écorce qui m'empêche de bien voir, de bien entendre, de bien goûter, de bien toucher. Donc je perds un petit peu la capacité des sens. C'est ce qui s'est passé, en fait, depuis la création du monde, jusqu'au moment où on sortira d'Égypte. Quand on sortira d'Égypte, on va libérer tous ses sens. On va mieux entendre, mieux voir, mieux goûter, mieux toucher, mieux sentir. Shimon veut dire Shimia, Lishmoa, écouter, entendre, et comprendre, par la même. J'entends en français, je comprends, même en hébreu. Donc il y a ici une descente pour remonter. Ce qu'on appelle en hébreu Yerida le Tzorech Aliyah. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tous ces noms-là, Ne'elamim kol ha'anashim ha'pratim, ils disparaissent. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tous ces noms descendent en Égypte et meurent. Voici le verset de la Torah. Vayamot Yosef. Yosef est mort. Vekol Echav. Et tous ses frères aussi. Vekol Adorahu. Et toute la génération. Hein, tout le monde est mort. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde est mort? C'est comme s'il y avait une extinction de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Tout le monde a disparu. Et pourquoi faire? Et pourquoi ils ont existé? Pour disparaître. Et d'un coup, virgule, ou venait Israël, à leur place, il y a une autre entité qui se met en place. Ce qu'on appelle Bnei Israël, les enfants d'Israël. Par où? Ils ont commencé à se multiplier. Vaishretsu. Tellement que c'était comme des poissons qui enfantent des dizaines et des centaines de petits poissons. Vaïrbu, et ils se sont multipliés. Vayatsu, ils se sont renforcés. Bim, od, meod, beaucoup, beaucoup. Vatimale a aretotam, à tel point que la terre a été remplie. Toute la terre d'Égypte, ou d'une manière générale, toute la terre en a été remplie, en a été pleine. Première conclusion. Bim kom apratim, mofi Hashem klali chadash. Bnei Israël. À la place des individus qui sont morts, nous avons l'apparition d'un nouveau nom. Bnei Israël. Vous êtes d'accord? Puisqu'il y a marqué Vayamot Yosef et Kol Echa et Kol Ador, donc Yosef est mort, tous ses frères, toute la génération, et puis d'un coup, ou Bnei Israël.
La première fois que Bnei Israël apparaît.
Tout à fait. C'est-à-dire, nous avons ici quelque chose de bizarre, c'est que les uns sont morts, et une autre entité est en train de se placer dans l'univers, de prendre la place. Les Harmiken, c'est pas terminé. Après cela, Gam Hashem Azeela, même ce nom-là, on ne le verra plus. En tout cas, il va laisser lui aussi sa place à un autre nom, à une autre définition. Vous voyez, on est toujours dans les définitions. Ubim komo mofi ha-teur ha-chadash, et à sa place, donc, apparaît la nouvelle version. Vayakom melech chadash al-mitzrayim, je traduis, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Asher lo yada et Yosef, qui a oublié donc Yosef, qui n'a pas voulu reconnaître Yosef, peu importe comment on traduit. Vayomer el-amo, et il dit à son peuple, hine am vene Israël. Maintenant, on a rajouté am. C'est-à-dire le peuple des enfants d'Israël. Vous voyez qu'il y a une évolution. Au début, ce sont des prénoms. Après, c'est les enfants d'Israël. Et maintenant, c'est le peuple des enfants d'Israël. Tout à fait. C'est-à-dire, on a perdu, en fait, le côté individuel. Et on passe petit à petit à un dévoilement d'un ensemble, du collectif Israël. Et qu'est-ce qu'il a, ce collectif Israël? Rav. Il est grand, énorme, ve'atsum, et puissant, mimenu, deux possibilités de traduire, grâce à nous, ou bien, plus que nous. Toujours est-il que, Paro a peur. Il dit à son peuple, on est envahi. Il y a un nouveau peuple, une nouvelle entité de vie, qui nous a poussé de l'intérieur, on n'a rien vu arriver. On n'a rien compris, et là on est déjà face à un peuple. Galut Mitzrayim. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette notion d'exil, en fait. Que s'est-il passé là-bas? Toujours en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc l'exil de Mitzrayim, Poelet Beshlavim, on voit qu'elle agit par étapes.
Au départ, elle fait perdre l'identité individuelle.
Et elle fait perdre, en fait, pas seulement l'identité individuelle, mais elle fait perdre, en fait, toutes les valeurs qui se trouvent au fond même de notre peuple, de notre nation. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à savoir quelle est notre
qualité d'âme. On ne sait plus qui on est. Veofechet et Adam le yetzur stami, à tel point que l'homme devient un être quelconque, une forme de vie, comme un animal. Beolam she'en lo shum yad. Et en plus de ça, il est dans un monde où il n'y a aucun sens et aucun but. C'est-à-dire l'homme, au premier degré de l'exil, perd tout, et son identité, et le but même, et le sens, et le goût de la vie. Mitzrayim hi bet avadim. C'est pour cela que la Torah désigne l'Égypte comme étant une maison d'esclaves. C'est pas que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Même les Égyptiens qui vivent en Égypte sont des esclaves. C'est-à-dire toute l'Égypte s'appelle une maison d'esclaves. C'est sa tendance, c'est sa manière d'être. Elle fabrique en fait des esclaves. Donc c'est une usine d'esclavage pour tous ceux qui y vivent. Il se trouve que les enfants d'Israël étaient là-bas. Mif'al Assoum, donc c'est une société humaine qui ressemble à une usine à Osek de Bniat Arem Miskenot, qui fabrique des villes de Miskenot. Qu'est-ce que c'est Miskenot ? Des villes de misérables, c'est-à-dire des villes où on ne sait pas, en fait, quel est le but. On fabrique, on fait des bulles, on fait des immeubles. Ça ressemble, en fait, à un être qui vit sa vie et il ne sait pas ce qu'il fait. Tous les jours, il se lève, le matin, il mange, il boit, il dort, il va travailler, il revient. Et on lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, j'ai fabriqué une carrière, d'accord, et après? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu construis, tu arrives à un certain âge, tu tombes malade, et hop, à dégager. Alors qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que l'Égypte prépare. Elle fabrique des hôtes qui n'ont aucun avenir, ils ont tout simplement marqué leur passage sur Terre par le fait qu'ils ont construit une villa, où ils ont acheté un appartement, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ne prendront rien. Et là, chez les Achar Miken. Mais apparemment, c'est une étape. C'est pour cela que, après cela, Davka Mitoch Mitzrayim, c'est précisément de cet état d'Égypte, pas seulement un état, mais un état de conscience, Somachat Hamudaout Achadasha chez Ageoula Kshura Elea, va pousser en fait la nouvelle pousse de la rédemption. C'est-à-dire le fait de prendre conscience à un moment donné que nous sommes un peuple. En tout cas, voici ce que Israël a gagné en Égypte. Israël a gagné en Égypte la conscience d'être une nation. Elle l'était déjà, mais elle l'ignorait, puisque nous avons été pensés par l'éternelle nation. Nous avons été créés par l'éternelle nation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas révélé ce degré. Il n'y avait que des individus. Et donc, il faut à un moment donné que les individus laissent la place au peuple. Donc, les individus meurent. Si je veux traduire ça d'une manière psychologique, c'est-à-dire que toutes les valeurs de l'homme au niveau individuel s'éteignent à un moment donné pour laisser la place à un mouvement beaucoup plus large où tu fais partie d'un grand mouvement et tu n'es plus en fait une personne à part entière. Okay. Exactement. C'est un mal pour un bien. Je l'ai dit tout à l'heure, Yerida letzorech alia, une chute pour une remontée. D'accord? Quelle est la différence entre un peuple et un ensemble d'individus? Est-ce que c'est pareil?
Non.
Qui est plus grand?
Le peuple.
Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble d'individus? C'est toujours des individus. Car tu peux mettre des milliards d'individus ensemble, ça ne sera jamais un peuple. On ne peut pas fabriquer un peuple. Un peuple, c'est une notion qui existe avant. C'est-à-dire, c'est l'idéal. C'est la pensée. C'est l'âme. C'est la structure intérieure de cette nation, qui après se dévoilera dans des détails. Je veux dire par là que Dieu a pensé une neshama avant de la faire apparaître dans des corps humains. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que le cours d'ici, du Machon Ora, c'est l'ensemble de cette classe? Qui existe avant qui? Le rassemblement des filles qui sont là? Ou l'idée? L'idée, c'est la même chose. L'idée Machon Ora existait bien avant vous. Quand vous êtes arrivé, que s'est-il passé? Bien, l'idée Machon Ora s'est dévoilée dans chacune d'entre vous, à tel point que vous vous sentez maintenant lié à cette idée qui vous a précédé. Mais c'est pas vous qui fabriquez l'idée. Vous avez tout simplement trouvé un dénominateur commun qui existait bien avant, il s'appelait Machon Ora. Et chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a trouvé en fait un bénéfice dans cette idée qui existait avant. Donc, qui fait qui? Est-ce que c'est Machon Ora qui vous a fait, ou bien est-ce que c'est vous qui avez fait le Machon? C'est le Machon Ora qui vous a passé, qui vous a en fait émis cette émission transmise. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que les rayons du soleil rassemblés forment un soleil? Non. Le soleil existe avant ses rayons. C'est le soleil qui rayonne. Eh bien, c'est la même chose. On ne peut pas rassembler des rayons de soleil et on fabrique un soleil. Ça n'existe pas. Mais le peuple d'Israël, c'est exactement pareil. C'est un grand soleil créé par Dieu qui, à un moment donné, va commencer à émaner. Et chacun d'entre nous, de ces individus, de ce peuple, est comme un rayon de ce soleil.
Est-ce que vous dites que ça correspond aussi à ce qu'on dit sur le nom d'Hachem? Que le nom d'Hachem, le tétragramme, il englobe tous les noms?
Oui. C'est la même chose.
C'est comme des rayons.
Tout à fait. C'est comme un soleil qui rayonne. Et donc, en réalité, est-ce que le rayon existe de par lui-même? Oui ou non?
Non.
Parce que si je coupe, en fait, le rayon, est-ce que le soleil s'éteint?
Non.
La preuve, je peux même fermer un rideau, le rayon de soleil ne rentre pas dans la pièce. Est-ce que ça a éteint le soleil?
Non.
Donc, en fait, c'est pas le rayon, c'est le soleil. Il n'existe même pas, le rayon. C'est le soleil qui rayonne. On est bien d'accord. Ok? Je veux dire par là que nous n'existons que parce que nous faisons partie de ce soleil qui s'appelle Am Israël. On n'a pas d'existence propre déconnectée de cela. Et si tu penses que tu en as une d'existence déconnectée de ce degré, tu t'appelles Racha. Et c'est ça le rachat. Dans la Gada de Pessah, comment on définit le rachat? Le fils hotzi et atmo minaklal. Il a eu l'impression qu'il était lui-même le soleil. Il s'est déconnecté du tout. Quand je déconnecte quelque chose du tout, il est mort. Une feuille sur un arbre est vivante tout le temps qu'elle est reliée à l'arbre. Mais dès que je la coupe de l'arbre, elle est déjà morte. Donc, si vous vous découpez de votre peuple, vous êtes mort. Et il faut tout le temps prendre conscience que nous n'existons que par l'existence du peuple. Et plus je vis avec cette conscience, plus je vis. Moins je vis avec cette conscience, moins je suis dans le vécu. Donc, quel est l'inverse du rachat? Le tzaddik. Quel ou le chacham? Qu'est-ce qu'il fait le chacham? Quelle est sa prise de conscience? Il sait qu'il fait partie du peuple et que tout ce qu'il fait en réalité, c'est être fidèle au peuple. Comme le rayon du soleil, est-ce qu'il est fidèle au soleil?
Oui.
La preuve, on l'appelle rayon du soleil. Car il est représentant du soleil. On l'appelle pas rayon. D'accord? Donc je suis le fils de la nation. Je suis un membre de mon peuple. Je suis un rayon de Am Israël. Ou Behemet, Beshaach et Moshe Nolad. Et effectivement, lorsque Moshe est né, Moshe est né à 6 mois. C'est-à-dire que sa mère était enceinte 6 mois, elle a accouché à 6 mois. Donc elle a caché 3 mois. Parce que à 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher, parce que ça fait 9. Et généralement, une femme accouche à 9 mois. Et donc, les Égyptiens sont venus à la maison taper parce qu'elles savaient exactement quand les femmes étaient enceintes. Donc on est venu taper chez elle, à la maison, pour prendre le bébé, qui devait être né. Et donc elle l'a caché juste au moment de... dans le Nil. Donc, Behemet Besha, chez Moshe Nolad. Quel rapport, donc, tout ce qu'on vient de dire avec ça, avec Moshe? Au moment où Moshe est né, Klomar Beregale Dato chez la Goel, Moshe étant le libérateur, la Torah ina mitiachet yoter le shemot ha'anashim. C'est fini. La Torah ne parle plus du tout des noms des individus. Mais alors, totalement. Regardez le verset. Vayelech ish mi bet Levi. Un homme de la maison de Lévi est parti. On ne sait pas qui c'est. Vaïkar, il s'est marié, et bat Lévi, avec une fille aussi de Lévi. On ne sait pas qui c'est. Vater et Ayelet, elle a vu l'enfant. On ne sait pas qui c'est. Vater et Achoto, sa sœur l'a vu. On ne sait pas qui c'est. Haalma, la petite fille, on ne sait pas qui c'est. Bat Paro, la fille de Paro, on ne sait pas qui c'est. Personne n'a un prénom ici. Amata, sa servante, on ne sait pas qui c'est. Em Hayeled, la maman du bébé, on ne sait pas qui c'est. Tout ça c'est des versets, c'est pris de versets. Je vous ai pris des extraits de versets où on ne dit jamais Yocheved, Myriam, Bikia. Non. Tous les prénoms ont disparu. Incroyable quand même. Après apparaît le nom Moshe. Mais même Moshe n'est pas un nom qui fait partie d'Israël. Moshe, c'est pas un nom juif. C'est pas un nom chez nous. Moshe, Hushem, Mitzri. Moshe est un nom égyptien. Qui veut dire quoi d'ailleurs? Non. Ça c'est Yocheved qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe en égyptien? Même aujourd'hui. Fils. Fils, ben. C'est un fils. En égyptien, le mot Moshe veut dire fils.
Quoi, aujourd'hui aussi?
Oui.
Ah, ils ont gardé.
Donc, Moshe, Hushem Mitzri, Dayelet Beatzmo Aino Mouda Lishmo Evri. Et l'enfant lui-même, c'est-à-dire Moshe lui-même, puisqu'on l'a surnommé, on l'a nommé Moshe, puisque c'est un Égyptien qui l'a pris, c'est une Égyptienne qui l'a pris. Comment est-ce qu'elle l'a appelé?
Fils.
Donc j'ai trouvé un fils. Donc elle a appelé Moshe. Est-ce que ce petit bébé sait comment il s'appelle? Non, puisqu'il n'a jamais même pas vu encore sa mère. En tout cas, il a oublié. Et elle y a donné un nom, sa mère. Elle y a même donné plusieurs noms. Nous, on les sait après par la Torah orale. Mais lui, il ne le sait pas encore. Vous connaissez un des prénoms de Moshe? Vous connaissez pas? En hébreu? Avigdor.
Ah
ouais? Oui, par exemple. D'accord? Ça, c'est un des noms de Moshe. Il y en a encore d'autres. D'accord? Pas maintenant, c'est pas le but. Mais, Moshe a des noms hébreux. Mashmauto shel Hashem Moshe belashon Mitzrayim. Donc, le sens du nom Moshe en langage égyptien, Hikfula. Elle est double. Ou bien fils, ben, ou bien maïm, de l'eau. C'est-à-dire, Moshe veut dire aussi de l'eau. D'ailleurs, en arabe, jusqu'à aujourd'hui, vous avez deux lettres déjà de Moshe dans la traduction du mot eau en arabe. Comment on dit un de l'eau en arabe? Ma. L'ma. Donc, il manque juste le shin. Mais en égyptien, Moshe veut dire de l'eau. Masha. Oui. C'est pas arabe encore, mais peu importe. C'est des copes. Pour l'instant, on est d'accord.
Par exemple, Esther, c'est...
Hadassah.
Voilà, Hadassah, mais en fait, on va garder Esther.
Nachon. Nachon. Justement, c'est pour ça que j'amène ça. C'est pour ça que j'amène ça. C'est pour ça que je traite de ce texte. C'est-à-dire, je veux vous amener à comprendre que la Torah, ici, si elle a gardé ses noms, c'est qu'elle veut nous faire passer un message. Et donc, tu as raison de poser cette question. Pourquoi ne pas appeler un chat par son nom? Ben, tout simplement parce que j'ai une importance capitale à comprendre qui doit être le sauveur d'Israël, d'où il va sortir. Et à l'époque, et aujourd'hui. Bayamim hahem, bazmanazé. Alors regardez maintenant. Kach nitan leavin et tapasuk, c'est comme ça qu'on peut comprendre le verset. Vayehi la leben. Donc, le verset nous dit clairement, et ce fut pour elle un fils. Pour qui?
Pour
Batia. Hein? Ou Bitia, peu importe comment vous le prononcez. C'est devenu pour elle un fils. Vatikra et Shemo, donc elle l'a appelé mon fils, Moshe. Klomar, Shebat Paro, Kara lo Alchem Haben, Sheimata. Donc la fille du pharaon l'a appelée au nom du fils qu'elle l'a trouvé sur le Nil. Elle est sortie ce matin pour aller se baigner, pour aller faire son mikvé, sa toilette. Elle voit une boîte. À l'intérieur de cette boîte, elle trouve un papier, un coffret surprise. Elle ouvre, elle voit un bébé. Ok? Et elle a dit, c'est un Kinder Bueno. C'est-à-dire un bon enfant. Que Kinder veut dire un enfant. Donc c'est un bon enfant, c'est quelqu'un de bien. Donc il est dans une petite bulle. Kinder surprise. Quel Omar? Shabbat Paro, car a lo al shema ben sheimatra. Le umadot, face à cela, Yochevet, sa véritable mère, Shehi ha'em biologique, qui est la maman biologique de ce bébé, chez le Moshe. Ma'adifa et ha'mashma'ut ha'shnia chez l'Hashem. Elle prend l'autre version du nom. Elle a traduit le nom, même en le laissant égyptien. Elle a joué avec les mots. Vatoma. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et maintenant c'est sa mère. Ki min ha'maim meshitihu. Car je l'ai sorti des eaux. Maintenant, c'est faux. Ah, il a fait. Donc en réalité, elle dit pas car je l'ai sorti des eaux. Car on l'a sorti. Elle l'a sorti des eaux. In hamaim meshitihu. Pas mash. Tout. Je l'ai pas sorti moi. Elle l'a sorti. Regardez en parenthèse. Et bat faro. At. Toi, la fille de Paro, Mashit Otomina Maim, tu l'as tiré des eaux.
Pourquoi elle l'a sorti?
Qui? La fille?
Elle aurait pu être
Mashit. Elle
aurait
pu? C'est quand même une très bonne question. Et d'ailleurs, en plus de ça, en sachant après que c'est un hébreu, ils auraient dû le tuer. Ça veut dire que dans l'apparition de la Géoula, il y a une intervention divine qui brouille les cartes.
Ils l'ont su quand c'est un hébreu?
Tout de suite? Qu'il était enveloppé avec un vêtement, c'est marqué comme ça. Va Tereoto, qui ben à Ivrim, où elle a vu que c'était un enfant des Hébreux. Oui, elle a vu. Mais il y a marqué, va Tachmol Alav, elle a eu pitié.
Et c'est quoi cette histoire que son bras était à manger?
Ça, c'est la sœur. Ça, c'est la sœur. C'est Rivka, qui a gardé, en fait, le lien. Et après Bithia aussi, elle a envoyé son bras pour le chercher.
Non, Myriam.
Myriam, c'est pas par Rivka. Oubliez-nous, Myriam. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces noms-là? En fait, vous comprenez que même dans ce processus, il y a une intervention divine. Comment elle s'appelle donc cette fille qu'il a pris?
Bithia.
Qu'est-ce que ça veut dire Bithia en hébreu?
La fille de Dieu. C'est-à-dire, c'est une fille des deux premières lettres du nom d'Hachem.
C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'elle est descendue pour aller prendre son mikvé. Peu importe, c'est-à-dire, elle a pris une certaine conscience de certaines choses, et au même moment, Akadosh Baruch Hu, qui fait les connexions des incidences, eh bien, il a fait en sorte qu'elle trouve cet enfant et qu'elle ait pitié de lui. Donc, elle s'appelle Bithia. D'accord? Mais je peux aller plus loin. Si c'est Bithia, au niveau des lettres du nom d'Hachem, c'est quoi comme lettre?
Deuxième groupe de lettres. Quels sont les deuxièmes groupes de lettres? Dans le nom d'Hachem, Le nom d'Hachem, c'est un 4 lettres. Il y a le Yud et le He, après il y a le Vav et le He. Donc si je parle de Bat Ya, la fille de ces deux lettres, c'est ces deux lettres. Vous avez compris?
Non.
Eh oui, parce que ces deux lettres, c'est comme si c'était la mère, la maman. Mais là, c'est pas la maman, c'est la fille de ces deux lettres. Donc qui est la fille, c'est-à-dire la conséquence de ces deux lettres? Ces deux autres lettres. Donc Biti, en réalité, c'est comme si elle s'appelait Vavehe. Vous avez compris?
Mais Vavhe, c'est pas... Vavhe tout seul, c'est... Ah oui, d'accord, Vavhe, là, c'est Vav, Hachem.
Vavhe, du nom d'Hachem. Après, on va falloir, il va falloir le compléter pour trouver le Yud et le He.
C'est ça.
Pour former. Mais pour l'instant, Bat, Ya, c'est ça. Vous n'avez pas compris? Oui ou non?
Il a donné un nom, dans la Torah, il y a un nom juif hébreu à une égyptienne.
Tout à fait, tout à fait. C'est complètement paradoxal, tout est inversé.
Je dirais, ça ne s'appelle pas Shem et Tartiti.
Exactement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a ici...
Elle s'appelle Ya, en fait.
Elle s'appelle Va.
Va.
C'est pour ça qu'elle est la fille de Ya. Donc la fille de Ya, c'est les deux autres lettres. Sinon, elle se serait appelée Ya. Mais on ne dit pas qu'elle s'appelle Ya, on dit que c'est la fille de Ya. Donc si c'est la fille de Ya, c'est forcément les deux autres lettres. Vous avez compris?
Mais alors pourquoi on ne veut pas suivre les lettres
en... Parce que pour l'instant, rien n'est dévoilé. Pour l'instant, c'est un code qui cherche à se mettre en place. D'accord? Donc il va falloir trouver en fait des lettres qui complètent ce va. Donc, Moshe, je reprends le texte, Gadel, il pousse, il grandit, Efo, Betefer, Sheben, Shte, Tarbouyot. Où est-ce qu'il grandit, Moshe? Non, Betefer, qu'est-ce que c'est Tefer? La couture. Entre deux cultures. Tefer, c'est une couture. Tfira. Ben oui. Il est, en fait, dans la couture entre deux cultures. Exactement. Entre la culture égyptienne et la culture hébraïque. Puisqu'il fait partie des deux. Ma?
Moi, je pensais que, enfin, après, c'est un peu de, comme ça qu'on a appris, entre guillemets, qu'il a grandi que dans la culture égyptienne. C'est-à-dire que...
C'est vrai. Mais, en fait, lui, il vient de qui?
Non, je suis d'accord, il a un passé, mais je veux dire qu'on l'a pas...
Tout à fait, tout à fait. Tu as raison, tu as raison, tu as raison.
Et pourquoi il est passé pour aller voir les
gens? Il a fait. Ça veut dire que, dès lors, si je prends les choses maintenant à cette étape-là, ça veut dire que le Mashiach, Moshe c'est le Mashiach, oui ou non?
Oui.
De cette époque, c'était le Mashiach. Donc Moshe, il a étudié où? Tout sauf dans une yeshiva. Bizarre, hein? C'est-à-dire, c'est un rabbin qui n'a jamais mis les pieds dans une yeshiva. C'est bizarre, hein? Ça veut dire que, c'est pas qu'on peut apprendre autrement. C'est que le Mashiach doit avoir une structure pas comme celle qu'on imagine aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que Moshe a grandi dans une couture entre deux cultures. Parce que tout simplement, Moshe, c'est les sages qui nous le disent dans la Gemara. Le mot Moshe, c'est Ma Sheraya Hu Sheiye. Celui qui était le sera, redeviendra, et c'est lui, c'est le Mashiach. Celui qui était le sera. C'est tout. Et si la Torah nous donne une histoire, c'est pas pour y rester, c'est pour savoir la voir, cette histoire, dans la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre. Sinon, ça sert à rien, cette histoire. À quoi ça me sert de savoir cette histoire si je dois la jeter à la poubelle et me dire non, maintenant c'est une autre histoire? Comme j'ai dit à un type de Strasbourg qui m'a dit, c'est plus la même histoire, on n'est plus les mêmes juifs, machin, on est un autre peuple que ceux qui sont sortis d'Égypte.
J'ai dit, alors, il faut jeter la Torah, en fait. Ça sert à rien, on est à une autre histoire. Ça veut rien dire, tout ça. La Torah, c'est une prophétie, donc si la Torah me raconte des histoires du passé, c'est pour que je comprenne de quoi sera fait mon futur. Donc, Moshe vit entre Israël et Mitzrayim. Vous êtes d'accord? Israël de sa mère, et Mitzrayim dans sa culture égyptienne maintenant, qu'il est en train de... C'est sa nouvelle culture. Ou va sefer sheben shnei ha-yehudim, liyot melech ha-umot, o melech Israël. Donc, il a la possibilité maintenant de devenir quoi? Le roi des nations, puisque l'Égypte représente les nations du monde, ou bien le roi d'Israël. Pas évident. Kemishu bnoham umas shel paro, comme le fils adoptif de Paro, areshe Moshe Mohammad liot hamelech abba shel Mitzrayim. C'est le prochain roi d'Égypte. Oui ou non? Paro le prend comme le prochain roi d'Égypte. Il l'élève, il est en tout cas possible qu'il devienne son successeur, puisqu'il l'a adopté. Arkemishu bnam shel Amram veYochevet. Mais étant donné que biologiquement c'est le fils de Amram et Yochevet, Asidu la'amod veRoshevet Levi, c'est lui qui va être normalement à la tête de la tribu de Lévi. Car son père, qui c'était son père, Amram, c'est qui?
C'est le chef de...
C'est le chef d'Israël, de tous les traits des tribus. Puisque la tribu de Lévi elle-même, c'est qui? C'est la tribu la plus élevée. C'est les Kohanim. Les Kohanim, d'où ils viennent? De quelle tribu? De Lévi. Donc c'est les enseignants de la Torah, c'est les sages de l'époque, dont le gadol de la génération, le grand de la génération de cette époque, qui c'était? Amram. Et pourquoi il s'appelle Amram?
Parce
qu'il représente Amram, le peuple élevé. Recon, élevé, Ram. Ram, Alkol Goyim Hashem. Resh Mem. Donc Amram, un peuple élevé, un peuple haut. Aïn. D'accord, vous comprenez que ce sont des noms de code, encore une fois. Il ne s'agit pas seulement de personnages, il s'est appelé Amram comme il aurait pu s'appeler Maurice. Quel? La Torah vient nous enseigner quelque chose. C'est-à-dire, pour être chef de la nation d'Israël, il faut s'appeler au nom de la nation. Si tu n'es pas lié à la nation, et si ton souci ce n'est pas que la nation devienne grande, à Amram, tu ne peux pas être le chef d'Israël. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, un chef de cet État, si son souci quotidien n'est pas d'élever son peuple, eh bien, il n'a pas sa place. S'il a un souci personnel de se faire une carrière politique, c'est pas sa place. Donc, si Amram, c'est le chef de tout Israël de l'époque, qui est son fils?
Moshe.
Donc, il est en fait successeur naturel. On est d'accord?
Oui, mais à la base, je ne vais pas l'appeler Moshe, il n'a pas vraiment pas l'histoire.
Peu importe, peu importe. Alors, après, il y a toutes les autres noms. Mais si la Torah a choisi parmi tous ces noms de me donner Moshe, c'est que je dois savoir pourquoi. Ok? Alors, Velahafoch beyom min hayamim le melech Israël. Donc, où il sera un jour quand il sera grand le roi d'Égypte, ou bien, quand il sera grand, il sera le roi d'Israël. Voilà Moshe, il est coincé entre deux cultures. Et il ne sait pas encore à qui il appartient. C'est bizarre, hein, pour un Mashiach. Non?
Non, le chat, il ne saura jamais, on dit qu'il ne sait pas au début qui est le Mashiach.
Non? Oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'il est entre deux cultures? J'ai pas dit qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entre deux cultures?
Il est entre le roi et le Kodesh.
Ah, ça veut dire que le Mashiach?
Il ne sera pas forcément un rabbin, le Kodesh.
Non, j'ai pas dit ça.
Il a
fait, mais on, il doit être un peu de tout puisqu'il est dans la couture. Donc la couture, quand vous avez un vêtement, regardez votre vêtement. La couture ici, elle fait le lien entre cette partie et cette partie. Donc la couture appartient à quelle partie? Aux deux. Donc forcément celui qui est dans la couture entre la culture égyptienne et la culture hébraïque, il appartient aux deux cultures. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau plus profond? Que le Mashiach doit être universel. Parce que...
Universel, ça veut dire même les autres nations.
Mais, qu'est-ce que ça veut dire universel? D'accord. Pardon? Pardon? Je peux pas ensemble.
Non, mais bien que tu connais la Torah, la Gemara, le Mashiach...
C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir être les deux. C'est-à-dire, ça va être... Tout à fait. Ça veut dire, il doit être avec la culture Israël, et en même temps, il doit être ouvert aux nations du monde. Parce que son but, c'est quoi? D'éclairer les nations du monde. Donc, il doit avoir une force Israël qui lui est donnée par sa nature, donc papa et maman, et il doit avoir une force de... d'émettre son émission Israël aux nations du monde, parce que c'est pour ça que le monde a été créé, pour qu'Israël éclaire le monde. Donc, s'il n'y a pas un homme qui est entre ces deux cultures et qui appartient aux deux degrés, et qui a l'impression qu'Israël doit être dans son propre jus et que les nations du monde doivent mourir, eh bien, il n'a rien compris à son rôle de Mashiach, c'est pas le Mashiach. Le Mashiach, il est là pour sauver l'humanité tout entière, pas seulement les Juifs. On n'est pas dans un club privé. Qu'est-ce? J'ai pas parlé de ça. Non. Pas forcément. Il doit être emprunt de Torah, mais on ne sait pas exactement comment, à quel niveau, comment. Parce que la Torah, de toute façon, elle est infinie. Donc, Moshe Rabbeinu, il aura la Torah. Au moment où il devra jouer son rôle, qui va lui enseigner cette Torah? Hachem lui-même. Donc il lui fait un stage de combien de jours?
40
jours. En 40 jours, Moshe connaît tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il apprend la Torah en 40 jours? C'est possible d'apprendre la Torah en 40 jours?
Hachem lui met en lui tous
les Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelle Torah qu'il a, Moshe?
La Torah divine.
Une Torah intuitive. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin d'apprendre des halakhot par cœur. C'est comme s'il avait intégré, qu'il avait mangé. D'accord? Donc, c'est une Torah de vie qu'il a mangé.
Pourquoi on n'a pas cette Torah de vie? Vous dites toujours, c'est la Torah de connaissance.
C'est justement ce qu'on est en train d'étudier. D'accord? Alors. Maintenant, je vais vous le prouver. Tout ce que je viens de vous dire, on va essayer de le prouver. Vaïgdal Moshe. Donc Moshe grandit. Vaïetse el Echav. Et il sort vers ses frères. Il n'y a pas marqué encore qui c'est ses frères. Qui sont ses frères d'après vous? Ça veut dire que pour lui, pour Moshe maintenant, qui sont ses frères? Vous avez déjà une marloquette.
Mais non, on ne sait pas encore.
Est-ce que lui sait qui sont ses frères?
Non. Tant qu'il n'est pas sorti.
Alors qu'est-ce que ça veut dire Vaïgdal Moshe Vaïetse Elechav?
Il va voir les deux.
Non. Il veut trouver qui sont ses vrais frères. C'est-à-dire il est dans une recherche. Maintenant qu'il est grand, il veut savoir en réalité se connecter à sa source. D'où je viens? Il sait bien qu'il est un enfant adopté, donc il doit se dire à un moment donné, je cherche ma source. Alors pour bien comprendre ça, nous avons deux sages qui se sont justement mis en contradiction l'un avec l'autre, dans la Gemara. Yesh machloket ben achachamim. Et donc il y a une machloket, une controverse entre deux sages. Deux écoles. Chelkam sovrim ki Moshe mechapes et echav ben amisri. Certains de nos sages disent que Moshe cherche ses frères chez les Égyptiens. C'est acherim. Et d'autres, kegon haramban, et d'autres comme le Ramban, Nachmanit, pensent, chez les fidata, Moshe yotse lechapes et echav ben aivrim. il va chercher ses frères chez les Hébreux. Il n'y a pas de Juifs, hein? C'est les Hébreux. Alors, qui a raison? Les deux ont raison. Mais malgré tout, Moshe va avoir une décision à prendre. Moshe mechapes et zeuto. Donc Moshe cherche son identité. Hein, tout ça, c'est écrit dans le texte. Hein, on l'a jamais vu. C'est bizarre. Hubodek et chayachuto. Il cherche à qui il appartient. Veino yodea beofen vadai mi henechav. Il ne sait pas d'une manière claire qui sont ses frères. Anisayon arishon anireelav. Donc il y a une épreuve qui apparaît devant lui. D'accord? Dieu lui envoie en fait un film. Quel est le film? Qu'est-ce que tu vois dans le film? C'est la première fois que Moshe va au cinéma.
Il voit un Égyptien
frapper un Hébreu. Il a fait. Il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Voilà le film. Ish Mitzri, Maké Ish Ivri. Il n'y a pas de prénom encore. Hein. On ne sait pas qui c'est. Il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu. Beregeze, mitoreret atroucha ativit. À ce moment-là se réveille l'intuition de Moshe naturelle, akova atetlo bebadaou, qui va fixer d'une manière certaine dans sa personne, chez Echav Hem Ha'ivrim, que ses frères sont les Hébreux. C'est à ce moment-là, il a ressenti quelque chose, il a ressenti son identité comme si on le frappait lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a senti ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mashiach va être jugé par rapport à quoi?
Des actes.
À la reconnaissance
de son identité. À son appartenance, à sa présentation.
Au ressenti de la souffrance de son peuple. C'est la première fois où il voit un homme souffrir. Et il s'est identifié avec cette souffrance. Ça veut dire que la qualité première du Mashiach, c'est quoi? La compassion.
Est-ce qu'il a d'une certaine façon appris ça de sa deuxième mère qui avait...
Bien sûr, bien sûr. Mais ils ne savent pas encore à qui il appartient. Même si un enfant a grandi dans un autre truc, il dit, bon, ça c'est ma mère qui m'a accouché, mais moi j'ai grandi ici. Hein. Alors regardez ce qu'il dit. Ish mitzri make ish ivri me'echav. Le titre, la Torah nous dit clairement, il a vu un homme égyptien frapper un homme hébreu qui fait partie de ses frères. Donc il a choisi maintenant que l'hébreu c'est son frère. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le récit, mais c'est ce qui se cache dans ce récit. Donc, à shiur arishon shel goalam shel Israël, le premier cours, le premier shiur, que Moshe a reçu. Quel? C'est quoi? Hu beyecholto leizdahot im goral ha'uma veim sivla. C'est la capacité à s'identifier à goral. C'est quoi le goral? Le sort, le destin de son peuple et de sa souffrance. Voilà la première qualité. Non, non, la souffrance de son peuple, d'abord. C'est sûr que c'est quelqu'un de sensible. Mais là, il a choisi malgré tout son peuple. Il aurait pu se dire, peut-être que l'Égyptien a une raison de frapper l'autre. Tout je sais, moi, peut-être qu'il a volé une pomme au marché. Il aurait pu se dire, arrêtez les mecs. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tout de suite la Torah nous dit qu'il s'identifie avec celui qui reçoit les coups? Ça veut dire qu'il a pris la défense intuitivement de son peuple à travers le petit homme qui était là-bas. Ça m'intéresse pas l'homme qui est en train de se faire frapper. C'est l'idée qui se cache derrière qui m'intéresse. Donc la première qualité du Mashiach va être la compassion. De savoir que son peuple souffre et qu'il souffre lui de cette souffrance. S'il n'a pas cette qualité, Il ne peut pas être le Mashiach. Alors effectivement, Moshe va travailler pour arriver à cette qualité. D'accord ? Il va être berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dirige. Donc, à travers des chèvres, des moutons, Moshe va apprendre, en fait, comment diriger. En plus de ça, il était en Égypte, dans l'école des rois. Donc, il apprend aussi à gérer la politique, un État, un peuple. Comment il va faire pour tout ça ? Il va falloir qu'il fasse une école supérieure de politique, de l'ENA, je sais moi. Chez la Torah, Ishona, chez Moshe, Moulboré, Haolam, Mi, Anochi. Et regardez encore, je vous prouve qu'il ne savait pas à qui il était. La première question, quand il ouvre sa bouche pour la première fois à Moshe, il pose à Kadosh Baruch Hu une question, Mi, Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui suis-je ? Ou bien qui tu es ? Tar Anochi, qui c'est Anochi ? C'est Hachem. Il se présente comme ça quand il donne la Torah Anochi, Hachem Elohecha. Donc, on peut savoir à qui fait référence Moshe ? En réalité, il dit à Dieu, qui es-tu et qui suis-je ? Les deux sont vrais. Et je peux rajouter, qu'est-ce que tu veux de moi ? Pourquoi tu me fais voir tout ça ? Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, là-dedans ? Hachela Shnia Shelo, la deuxième question de Moshe, il a dat mi hua sholeachoto, donc qui l'envoie ? Que déligole Israël, pour délivrer le peuple d'Israël ? Ou maushma sheloto koach shmeimi, et quel est le nom de cette force divine, de cette force céleste qu'il envoie ? D'accord ? Comment il lui pose la question dans le langage de la Torah ? Tu veux que j'aille les sauver ? D'accord. Mais eux, ils vont me poser la question, qui, au nom de qui tu viens ? Qu'est-ce que je leur dis ? Donc Moshe, il est intelligent. Il se dit, d'accord, admettons que je viens de voir une apparition divine, un phénomène qui me dépasse, mais ce phénomène est en train de me parler. Il me dit, va sauver mon peuple. Maintenant que j'ai vu que tu t'identifies avec ce peuple, sache que moi aussi, Dieu, j'ai souffrance de ce peuple d'Israël. Je souffre aussi. Donc si tu as senti en fait la souffrance, c'est que tu as senti ma souffrance. Donc va les libérer. Première question de Moshe, qui suis-je pour les libérer ? Et qui tu es ? Pour m'envoyer ? D'abord, peut-être que je suis en train de rêver. Peut-être que je suis devenu fou. D'où je sais que c'est vrai ? Je suis en train de voir un film. Moshe ne sait pas qu'il est prophète. Maintenant, il est en train de prophétiser, là. C'est la première fois où il entend des paroles du divin. C'est pas facile, non ? Vous avez déjà entendu des paroles divines ? Non. Il y en a qu'on enferme pour moins que ça, hein. Ah, imagine-toi, tu viens le matin, ta copine te dit, tu sais pas, Dieu m'a parlé dans la nuit. Tu commences déjà à la voir avec un œil. Eh bien, c'est exactement ce que Moshe dit. Quand Moshe, il vient chez les enfants d'Israël et qu'il dit, par exemple, ce soir à 20h, il y a un cours. Je donne un cours à Ranana. Qui c'est qui vient au cours ? Qui est allé au cours de Moshe ? Presque personne. Il met des affiches partout en Égypte, il n'y a personne qui vient en chiot. Aujourd'hui, si je te dis il y a un cours de Moshe Rabbeinu ce soir, tu y vas ? Pourquoi ? Parce que maintenant. Mais au départ, au moment où ça s'est fait, quelqu'un est allé à son chiot. Je vois même une femme qui dit à son mari, chérie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Il dit, il y a un cours d'un type qui est venu, on ne sait pas d'où il sort. Il s'est appelé Moshe, et il donne un cours. Et sa femme qui lui dit, bon, fais-moi plaisir, reste à la maison, arrête tes bêtises avec tous ces machins, encore un allumé, encore un qui se prend pour Mashiach, il doit avoir un syndrome de Jérusalem. Oui ou non ? Mais oui, c'est comme ça, Rabotai, c'est comme ça que ça se passe, même pas à l'époque.
Il y avait un dévoilement.
Non, pas du tout, même chez les Égyptiens, il y avait des dévoilements. Il y a fait ?
Mais aujourd'hui, personne n'a dévoilement. À l'époque, il y avait
des. Eh bien, c'est la même chose, donc c'est la même balance.
Oui, mais c'était plus, je pouvais plus
Pas du tout. Il aurait pu croire que c'était un sorcier. Puisque justement la sorcellerie était tellement grande.
Si aujourd'hui un sorcier, comme dans cette plus, on est sûr qu'on va pas y croire, on va dire il est fou. Alors qu'avant, il y avait des...
Oui, mais on aurait pu croire que c'était un sorcier et pas quelqu'un qui est envoyé par Dieu.
Okay.
Donc en fait la balance, c'est la même balance. C'est la même chose. Puisqu'il n'y a rien d'un côté, il n'y a rien de l'autre. Et s'il y a tout d'un côté, il y a tout de l'autre. Donc Moshe passe pour un ouf. C'est exactement ce que je suis en train de lui dire. Donc,
à un moment donné,
ah oui, à un moment donné, on est sorti, mais il fallait faire un tri.
Ouais,
c'est pas facile.
À un moment donné, ce que les Égyptiens arrivaient à faire.
Non, ce que Moshe arrivait à faire, les Égyptiens n'arrivaient plus à faire.
Voilà,
et alors, pourquoi 80% alors n'ont pas écouté sans rester en Égypte? Sur 100 personnes, il y a bien 20 qui sont sorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80 qui ont pris Moshe jusqu'au bout pour un malade. Et quand ils sont sortis d'Égypte, les gens ont regardé leurs propres frères en se disant, les pauvres, ils vont dans le désert, c'est des malades, ils vont aller, ça va durer 2 jours, ils vont se faire massacrer. Mais oui, ils étaient à leur fenêtre, 80, il n'y a que 20 qui sortent. Ça, c'est des petits rêves, c'est des machins qui se sont dit, nous, on sent le vent tourner. C'est comme les Français aujourd'hui. Quand ils voient les Juifs partir, eux aussi, ils s'en vont aux États-Unis, en Italie, je sais pas. Oui, mais oui. Mais oui. Mais ça, c'est pas l'essentiel. Donc, moralité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'au bout du bout du bout, il y en a qui ont pris Moshe pour un fou. Je te pose la question, toi t'aurais été avec les 20 ou avec les 80? Réfléchis bien. D'où tu sais? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as fait ton alia, tu as pris la décision de venir ici, et ben tu te maries bientôt, ça veut dire que tu as vu assez clair pour faire partie des 20%, même à cette époque. Tu comprends? Mais oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas évident. Mais je vais aller plus loin encore. Ta cousine Germaine, comment elle s'appelle?
Sarah.
Elle est là-bas? Et l'autre?
Là-bas.
Ah. Comment elle s'appelle l'autre?
Audrey.
Ah, Audrey. Pourquoi Audrey n'est pas ici avec toi?
Parce qu'elle n'a pas le même conseil.
Ah. Ça veut dire que dans les familles, imaginez-vous, il y avait des familles qui sont sorties et la cousine ou la sœur ou le frère qui ont dit à l'autre frère, mais tu es malade toi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a fait. Mais c'est plus Paris maintenant. On a un bel appart en Égypte. Il y a fait. Il y a fait. C'est ce que je veux vous faire toucher du doigt. Je veux vous faire toucher du doigt que c'est pas facile de sortir de cette Égypte. D'accord ?
Si on donne des bonnes raisons, si on se dit que c'est par exemple des problèmes financiers, des choses comme ça.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une fois qu'il est en Israël, sortir pour aller faire et revenir, ça, c'est autre chose. Mais sortir d'Égypte, tout simplement, pourquoi je vais sortir d'Égypte ?
Ok, mais est-ce que vous pensez pas comme on dit que la prophétie.
Pas tout de suite. La preuve aujourd'hui, c'est une prophétie. Tu l'as entendu toi et tes frères et tes sœurs ne t'ont encore pas entendu. Ta cousine Audrey non plus. C'est tout. Qu'est-ce que t'as entendu toi pour venir ici? T'as entendu une prophétie? Oui. Où est-ce que tu l'as entendu? Dans ton cœur. Et c'est le jour où tu as dit à tes parents, ça y est, je m'en vais. C'est tout. Si c'était clair ce qu'on a entendu, eh bien, combien seraient sortis d'Égypte? Tout le monde. La preuve que c'était pas clair. Alors vous pensez, ouais, mais quand même, ils ont vu des plaies, ils ont vu des machins. Alors s'ils ont vu toutes ces plaies, pourquoi ils sont pas sortis? Ça veut dire que c'était tellement habillé.
C'était là-bas, c'était normal de voir des
plaies. Il y a fait. Donc c'est le même niveau. T'as compris? Ça se rééquilibre.
Non, moi ce que je voulais dire, c'est comme on dit que ça se reviendra.
Ça c'est après. Pas tout de suite. Mais la Géoula, est-ce qu'elle a commencé?
Oui.
Oui?
Oui, mais ça veut dire que par rapport à l'Égypte, on aura une autre dimension, c'est que les 100% sortiront.
Alors si Dieu veut. Dis si Dieu veut. Ben, Zot Hashem. parce que c'est pas évident du tout.
Non, mais ok.
Eh oui.
Mais vu la prophétie, me disait que peut-être si on
reconnaît. D'accord, mais comment les autres vont sortir à la fin? Avec difficulté, avec des trucs, je sais pas comment. Peut-être. Alors, il faut prier, effectivement, pour sauver tout le monde. Tu as raison. Mais moi, ce que je veux faire toucher du doigt, c'est que c'est pas évident. C'est que tout le monde a vu les plaies que vous avez vues aussi, et pourtant, que 20% sont sortis. Maintenant, où est-ce que, quand est-ce qu'elles sont mortes, les autres personnes? Dans la plaie des ténèbres. Est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire?
C'est qu'on a enlevé, on a oublié et on a enlevé la lumière.
On a oublié la lumière. On a pas on a éteint le studio. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette plaie des ténèbres? Et qu'est-ce que ça veut dire que ces personnes sont mortes?
Parce qu'elles ont oublié leur identité.
Elles se sont tout simplement éteintes. Exactement. C'est de ça que je veux parler. Elles n'ont rien vu à la Géoula. Peu importe, les 600 000 âmes se sont habillées dans ceux qui sont sortis. C'est tout.
Il y a un rap qui me dit peut-être que c'était du coup le projet divin, que ces 80%-là...
Ça, je veux bien l'entendre, mais pour l'instant, nous sommes en train de parler. Moi, les projets divins, je ne les connais pas. C'est son degré à lui. Moi, je vois ce que la Torah m'a dit. Et je dois apprendre de ça quelque chose pour aujourd'hui. Ça veut dire que ta cousine Audrey, il faut l'empêcher de mourir dans quelle plaie? Celle des ténèbres, où elle verra plus rien. Il faut la sauver de ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a fait. Il faut rien dire du tout. Il faut rien dire du tout. Vous envoyez tout simplement un cours. C'est tout. Ou si vous allez là-bas, vous donnez un chiour, un cours, comme si c'était général. Et tu l'expliques d'une manière. Et celui qui est assez malin, il entendra, il va se dire, mais attends, elle a raison, quoi. Je suis en train de moi-même m'enfermer dans un système. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce chiour, il va passer maintenant sur Facebook. Et s'il a touché un... Demandez-moi d'être copine et je vous accepterai. Todarabba.